Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec Yoann Durand, le Kenyan, le marathonien de l'équipe de France, le maître Yodu. Salut Yodu.
Salut à tous, salut Benoît, ça va?
Ah ouais. Je m'en remets pas de cette mine.
T'as vu ce teint aller? On dirait que je suis allé au ski. Il me manque la trace des lunettes et je serai à Courchevel, moniteur de ski.
Et Yodu, on est ravis que tu sois de passage à Paris pour faire ces épisodes en studio avec nous. Merci à tous pour votre soutien une nouvelle fois. Mois de janvier exceptionnel, on a explosé
le
record.
Encore
une fois. Continuez de nous suivre sur Instagram, sur Strava via le club RMC Running. Et pensez bien à candidater pour la tentative de record du monde. C'est prévu le week-end du 8 juin. Vous avez toutes les infos sur rmc.fr et dans le club RMC Running sur Strava. Yoann, aujourd'hui c'est un épisode thématique. On va parler du pied. Comment mettre en place un travail de pied? À quoi ça sert? Quel est l'intérêt? Pourquoi? Comment? Et quand? Pour en parler avec nous, un ponte de la technique, ancien manager des équipes de France d'athlé, l'entraîneur mythique de l'Adji Doucouré qui a été champion du monde 2005 du 110 mètres haies, Renaud Legev, sera avec nous. Il est aujourd'hui directeur de la haute performance de l'équipe israélienne d'athlétisme. Et puis on aura un bon plan d'ossard pour terminer. L'AME Minuit Trail, un trail nocturne en forêt de Montargis, le 23 mars prochain. On sera avec l'organisateur Jean-Baptiste Magnaudet. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on va s'occuper de vos pieds.
Je m'appelle Renaud Longuèvre, je travaille comme entraîneur national d'athlétisme.
Voilà, et vers l'avant. Ça, j'aime mieux.
Je parle des formateurs. Les formateurs, c'est ces personnes qui essayent de dénicher des talents et de les emmener au plus haut. Pour nous, c'est les Jeux Olympiques et les Championnats du Monde.
Voilà.
Le talent, c'est de considérer qu'on n'en a pas.
Certains amis m'ont initié à la course à pied. C'est vrai qu'au départ, venant du saut à la perche, j'étais pas du tout branché sur les sports d'endurance.
Augmenter la prise d'avance, ça veut dire aller chercher plus loin et envoyer plus haut.
La grande vigilance qu'il faut avoir, c'est que la performance ne prédit pas la performance. L'Adji Doucouré, que j'ai entraîné depuis l'âge de 13 ans jusqu'au titre de champion du monde, quand il a 13 ans, c'est le numéro 3 de l'Essonne dans la catégorie Benjamin. Le plaisir en athlétisme et dans le sport vient de la progression individuelle. One more
time. Alors j'ai essayé de noter toutes les punchlines, j'ai souffert, il y en a beaucoup. On reçoit un ami dans RMC Running, cette semaine Renaud Longuèvre, le directeur de la haute performance de l'équipe israélienne d'athlétisme. Salut Renaud.
Salut Benoît, salut Johan.
Salut.
C'est ignoble de s'écouter comme ça.
Mais quel bonheur pour nous de te recevoir. Membre de la Dream Team RMC Sport, attention, grande gueule du sport, membre éminent du Moscato Show. Donc tu es le bienvenu, tu as toute ta place dans RMC Running. Comment ça va Renaud? Est-ce que la santé est bonne, le moral est bon à quelques semaines, voire quelques mois des Jeux Olympiques?
Ouais, écoute, ça va bien. Hein. On est en phase de préparation, tout simplement. C'est le début de la saison hivernale, donc ça se lance gentiment, mais sûrement, on va dire.
Je vous raconte les coulisses, en fait, avec Geoffrey Charpy, notre producteur et Yodu, on se disait on va monter une thématique autour du pied. Et lui, direct, Yodu, il nous a dit, mais les gars, faites Renault, c'est l'homme qui a fait la carrière de tous nos champions français, notamment l'Adji Doucouré. Donc s'il y a un mec qui peut nous parler du pied, Yodu, c'est ce que tu nous as dit, c'est Renault.
Ouais, bah c'est surtout, ouais, c'est ça, c'est venu direct dans mon esprit. Je me suis dit, c'est vrai que qui mieux que Renault peut parler de travail de pied, de travail de technique, parce que c'est vrai que moi, quand je suis arrivé dans l'athlé en 2005, c'était la grande époque de l'Adji, mais après, il y a aussi eu Élise Le Sueur, Muriel Hurtis, il a coaché que des grands noms de l'athlé français. Et c'est vrai que tous ces coureurs-là avaient cette qualité de saut, donc forcément une qualité de pied que chez nous, marathoniens, on a tendance un petit peu à négliger
et à
voir comme le petit pourcentage, le petit gain marginal qu'on met sur le côté après la sortie longue, après les footings, après l'endurance, après tout. Alors que je pense que Renaud va bien nous dire que un pied intelligent, un pied fort peut vous aider même sur marathon.
Tu vas nous aider à prendre notre pied, du coup, Renaud.
Bah, c'est ça, il a tout dit. Hein. On peut arrêter le podcast. Hein. Yo, il a tout dit, en fait. C'est, si t'as pas de pied, c'est comme rouler avec des pneus crevés. Voilà. Tu consommes plus d'essence.
Renaud, on démarre toujours nos podcasts par cette question. Pourquoi tu cours, Renaud Longuèvre ?
Pourquoi je cours ? Bah, écoute, et toi ? Non, là, tu me prends un petit peu à froid. Écoute, moi, j'ai commencé à courir j'ai par le marathon de New York, tu vois. J'ai fait tout de suite, j'ai des amis qui m'ont dit, ah, on s'est inscrit, on va à New York, t'es partant. Je dis, vous êtes des malades,
bah,
moi, je faisais de la perche, je faisais de la perche, je faisais 3 tours de terrain, j'étais tout rouge. Et puis j'ai pris un plan d'entraînement sur 3 mois dans, à l'époque, dans Jogging International.
Mais toi, t'as fait ça, mais c'est
bravo.
Incroyable. Comment toi
Ah mais non, mais aussi un total. Je veux dire, j'étais chez le marchand de journaux. J'ai dit, bon, écoute, maintenant, j'ai mon dossard. Va falloir que je cours. Et j'ai pris un plan pour faire moins de 4 heures avec 3 séances semaine.
Ouais.
Et j'ai fait 3h54.
Et bah voilà.
Parfait.
Et bah magnifique. Est-ce qu'il y avait Yoann Durand en une de Jogging International comme toutes les semaines ?
Peut-être, c'était peut-être, yo. Ah bah non, peut-être pas, ça c'était en 2002, moi.
Ah non,
2002,
ouais, non. Premier marathon. Non, en tout cas, il n'avait pas la même coupe de cheveux à l'époque, ouais. Yoann Durand. Mais tu sais quoi, Renaud, avant d'attaquer la thématique, on va quand même dresser ton CV de coureur.
RMC,
le CV de coureur.
Tiens, rappelle-nous ton âge, Renaud.
Là, aujourd'hui, quand
oui,
on se parle.
Aujourd'hui.
52 piges, je crois, ça fait ça. Hein.
52 ans. Tu cours depuis que t'as quel âge alors ?
Non, mais attends, quand je dis. Après, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de perches, donc après, t'arrêtes de courir. Mais sinon, je faisais les crosses du collège, tu voilà, vois, à 12, 13 ans.
Voilà,
crosses du collège, c'est quand même ça, le tu
on
vois,
l'entrée en course
à pied, ouais. On va dire
sûr.
Que c'est ça, quoi.
Est-ce que tu cours encore aujourd'hui d'ailleurs ?
Oui, je cours encore, ouais, bien sûr.
Tu cours combien de fois par semaine ?
Allez, 2-3, quoi.
Ok, ça représente quoi en termes de kilomètres ? 20, 30 km ?
Ouais, c'est ça. Ouais.
Est-ce que tu as des records perso en course à pied dont tu es fier ?
Fier, je sais pas, mais je sais que j'ai fait 38-52 sur 10 bornes. 38-52, c'était aux 10 km de l'équipe en 2012.
Bravo !
Pas mal.
À Paris.
Ouais.
Au semi, j'ai dû faire 1h32 ou 33, un truc comme ça. Mais je me rappelle plus où. Et puis, en fait, plus c'est long, plus je suis nul. Donc le marathon,
un vrai mec
le marathon, ouais. Le marathon, j'ai toujours essayé de suivre les ballons à 3h30,
ouais.
Mais ils m'ont toujours battu. Tu vois, j'ai jamais réussi à battre le ballon 3h30.
C'est le problème du meneur d'allure, hein, c'est que ça peut te casser le moral. Malheureusement, tu pars avec eux, puis tu les vois s'éloigner inexorablement. Et là, ça
c'est
fait
ça.
Mal.
Mais tu sais, j'ai fait des marathons, on va dire, du tourisme sportif. J'ai fait 2 fois New York,
ouais.
J'ai fait 1 fois Chicago, j'ai fait 1 fois Berlin, et j'ai fait 2 fois Nice-Cannes.
Magnifique.
Tu vois, et mon record doit être à 3,44 ou 3,43. Voilà, okay. c'est l'histoire de partir avec les copains. Dans la bande, il y avait Diagana, Dakoury, tu vois, des copains, quoi.
Il y avait un peu de tous les gabarits, quoi, du coup.
De tous les gabarits. Je me souviens d'avoir fait le col de la Gineste avec Richard Dakoury. C'était pas facile, plus difficile pour lui que pour moi.
Non, mais attention, Richard Dakoury, énorme sportif. Hein.
Ah oui,
après,
mais
l'Ironman et tout,
il est grand. Ah
bah, impressionnant. Ouais, ouais.
Mais... Ah oui, après, il a plongé dans l'Ironman.
Ah ouais, c'est flippant.
Moi, je te parle de sa phase voilà. Où il débutait, tu vois.
Okay. Est-ce qu'il y a un dossard qui est prévu dans les prochaines semaines ou les prochains mois, ou c'est pas d'actualité ?
Eh ben non, et ça manque. Mais si tu veux, il y avait en septembre, on s'était motivé avec ma compagne pour faire début novembre, il y avait un 10K à Tel Aviv, une night run, tu vois, qui partait à 22h, mais tu te doutes bien qu'elle a été annulée.
Ah, j'imagine.
Et on avait démarré une belle prépa, j'avais peaufiné un beau petit plan pour ma chérie et moi, tu vois, le truc à deux, sympa et tout. Bah on n'est pas allé au bout, quoi, tu t'en doutes bien.
Ouais, j'imagine. Bon, Renaud Longuèvre est avec nous cette semaine, la thématique c'est le pied, le travail de pied. Renaud est un ponte. Juste avant d'entrer dans ce studio, on était avec un journaliste d'RMC, Oussem Loseyev, grand ami d'Abou Diaby, qui nous disait, mais vous savez que j'ai fait une interview d'Abou, qui un jour a dit, Renaud m'a sauvé ma carrière parce qu'il m'a réappris à utiliser mon pied et ma cheville, parce qu'il a eu d'énormes problèmes au niveau de sa cheville. Abou Diaby, c'était un joueur de grand talent, passé par l'INF Clairefontaine, par Arsenal notamment. C'est-à-dire que le travail de pied, ça concerne tous les sports. C'est peut-être le premier angle, Renaud, c'est qu'on est tous concernés quand on fait du sport par les problèmes et les problématiques dont on va discuter dans un instant.
Mais évidemment, ouais, les sports co sont au premier rang hein, des sports qui ont besoin d'une ce qu'on appelle une force propulsive du pied. Tous les très grands footballeurs, que ce soit Ronaldo, Messi, c'est des gens qui ont une capacité à produire de la force au sol avec l'avant-pied. Et aussi, on le détaillera peut-être, mais le pied, il joue aussi un rôle dans la résistance à l'écrasement, dans le refus de la pesanteur quelque part. Et cette capacité à répondre pour éviter, tu vois, de passer trop de temps en appui-talon et tout ça. Et c'est vrai que les très grands sportifs, bon, tu vois Sinner, le tennisman, là, ouais. Moi, je me suis régalé. Voilà le prototype du gars.
L'Italien qui vient de remporter l'Open d'Australie.
Ouais. Voilà, le prototype du gars qui a un pied de fou.
Voilà, grande taille, capable de tout remettre, et une flexibilité au niveau des chevilles. C'est impressionnant chez Djokovic, d'ailleurs, aussi, si on parle du tennis. C'est quelque chose qui est assez bluffant. Toi, Yodu, aujourd'hui, qui a une carrière confirmée, plus de 20 ans dans le haut niveau, tu repasses par tes gammes, tu retravailles encore un petit peu, ou est-ce que tu as passé ce stade? Tu as un sport particulier, on parlera justement de l'intérêt de faire des gammes dans le long, mais tu passes encore par ce travail?
Ouais, tu es obligé d'en faire, surtout quand tu fais du long. Tu es obligé à un moment donné de redonner du dynamisme au pied, parce que c'est vrai que le long, ça endort. Tu as tendance, quand tu fais des bornes et beaucoup de kilomètres, à avoir le pied qui devient feignant, et c'est normal parce que quelque part, tu vas chercher cette économie de course et justement à attaquer un petit peu talon, voire médio-pied pour vraiment sécuriser l'impact, être très économe dans l'appui. Et du coup, il faut remettre un peu ce travail de pied au cœur de temps en temps de ta programmation pour retrouver un peu cette explosivité, retrouver du dynamisme, retrouver de la force pour que ton pied il s'endorme pas et que tu restes malgré tout un coureur, parce que Renaud l'a dit au début en parlant des pneus sous-gonflés, mais c'est exactement ça. C'est ton pied qui s'écrase et qui rend rien en fait. Et du coup, rien qu'en travaillant cette explosivité et ce ressort et ce rebond naturel, c'est de l'économie de course, enfin c'est un rebond qui te propulse. Alors aujourd'hui, on a la chance avec les chaussures à plaque de carbone d'avoir ces mousses là qui te permettent de te propulser un peu de façon pas naturelle mais artificiellement mais malgré tout ce travail d'appui il est important.
Le travail de pied, où est-ce qu'on le classe, Renaud Longuet? On le classe dans les gains marginaux ou dans les fondamentaux de la course à pied?
Il y a un truc qui est important, c'est que il y a pas de règles, il y a pas de recettes. C'est-à-dire que dans le très haut niveau, Tu peux voir, tu vois, Johan va se souvenir, mais une Ekaterina Szabo, c'était une coureuse de 5000 mètres qui a dominé. Elle courait sans que le talon touche le sol. Elle arrivait à courir 5000 mètres comme ça. Alors évidemment,
elle courait sur l'avant du pied sans poser le talon, jamais.
Sans poser le talon. Mais si monsieur tout le monde essaye de faire ça, évidemment, on va avoir des lésions au mollet, on va avoir évidemment des surtensions au niveau du tendon d'Achille, donc des grosses inflammations. Voilà, mais ce que je veux te dire, c'est que dans le très haut niveau, c'est le règne des anormaux. Donc tu peux pas dire il faut être comme ci, il faut être comme ça, parce que tu trouveras toujours un exemple de quelqu'un, et que la course à pied, c'est tellement complexe. Tu as des gens qui vont réussir à se propulser bien grâce à leurs pieds. T'en as d'autres qui vont au contraire miser sur la chaîne des extenseurs, le quadriceps, le fessier, très très puissant. T'en as qui vont avoir plus de fréquence, donc ils vont faire plus de foulées, et tu vas essayer de faire ça sur quelqu'un d'autre et tu le mets dans le rouge complet. Tu vois, t'as des gens qui arrivent à... Tu vois bien, t'as des gens qui font un nombre de foulées à la minute qui est impressionnant, puis t'en as d'autres, à l'inverse, qui ont besoin d'agir au sol très longtemps, d'aller jusqu'à un grand étirement du psoas iliaque. T'as toutes les formes, en fait. Pourquoi? Parce que le corps humain, il est tellement complexe que t'as des compensations musculaires qui se mettent en place. Mais, quand une fois que t'as dit ça, tu reviens à cette équation de dire que avec des pneus dégonflés, eh ben ta voiture à la pompe à essence, t'y vas plus souvent.
Eh ben oui,
donc le problème de la course à pied et le fond, le marathon, c'est que je situerais le pied comme une qualité de soutien, un pilier de soutien.
Okay.
Tu vois, un truc qui peut pas ce serait prétentieux de dire c'est ça qui fera la diff ou qui va faire la différence. Mais par contre, si tu ne l'as pas, là, physiologiquement, tu vas être dans le rouge et tu vas être en difficulté.
D'où l'intérêt pour un coureur de long de développer son pied. Nous, on l'a souvent dit avec, avec Johan. Johan a commencé à l'aborder, d'ailleurs, les nouvelles chaussures. On parle de carbone, mais on parle aussi des nouvelles mousses, Renault. Est-ce que ça, c'est aussi, entre guillemets, un handicap pour le travail de pied? Ou alors, est-ce que tu préconises, comme ce que dit Yodu, Johan nous dit toujours, variez vos chaussures, prévoyez une rotation pour que le pied reste intelligent, que le pied reste actif et que vous ne perdiez pas cette qualité parce que vous avez des super shoes, entre guillemets, quoi.
Ouais, c'est vraiment ça, vraiment. Moi, je bosse, tu sais, en Israël, on a des très bons marathoniens. On a deux chances de médaille olympique, une chez les femmes avec Lona Salpeter, qui a fait 2h17.45. Et puis, Maru Teferi a pris la médaille d'argent à Budapest, donc sur le marathon masculin. Et du coup, je les accompagne dans la prépa terminale. Des fois, je vais les voir à Sestrières. Et puis, avant Eugene, par exemple, on a fait un très bon stage. Et moi, j'adore, tu vois, je suis dans la bagnole, un peu comme un directeur sportif de vélo.
De vélo derrière.
Et en fait, si tu veux, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les footings de base, ils les font pas avec les carbones. Ouais. Ils font tout, tu vois, avec les chaussures anciennes. Ouais. Et les carbones, c'est vraiment, ils les sortent quand tu te mets, quand on fait par exemple un test à l'URSP, tu vois, moi je me souviens avant Eugene, les mecs, ils étaient tenus de compète. Et là, tu te dis, waouh, ils ont 10 fois plus de pieds que les autres séances. Tu vois, ça, tes carbones, ça doit être la tenue de Superman, tu vois. Le truc que tu galvaudes pas. Tu vas pas le banaliser tous les jours. Il faut continuer à s'entraîner. Comme dit Yo, varier les chaussures, mais surtout garder ce surplus, si tu veux, de force propulsive au sol. Il faut te le garder pour quand ça compte.
Tu te retrouves vachement dans cette philosophie.
Ah, c'est exactement ça, ouais. C'est ça, c'est comme il le dit, ouais, la chaussure à plaque de carbone, c'est votre chaussure de compétition, donc il faut la mettre sur les séances test, mais et sur la compétition, point barre. Après, le reste du temps, vous devez avoir votre chaussure un petit peu plus classique pour justement faire travailler votre pied. Est-ce que ça permet de développer tout ce qu'on a dit, et puis pour prévenir les blessures, parce que j'ai l'impression que ces chaussures à plaque de carbone, on n'a pas encore le recul. C'est nécessaire pour savoir si elles sont pas vectrices d'autres pathologies.
On voit quelques fractures de fatigue.
Il y a pas mal de fractures de fatigue. Tu vois que c'est des chaussures qui manquent de stabilité et du coup, le pied chez certains coureurs, il s'affaisse. Un coureur de 80 kilos sur des mousses hyper moelleuses, quand tu filmes au ralenti, tu vois la chaussure qui se distord dans tous les sens. Donc, effectivement, je pense que il faut garder justement, cette intelligence de garder juste. C'est votre voiture de compétition, c'est votre Formule 1, vous la sortez pas pour aller chercher le pain. Vous la sortez pour le dimanche pour aller vite.
Concrètement, comment ça se travaille? Comment on effectue le travail de pied, Renaud Longuèvre? Est-ce que c'est du travail additionnel? C'est-à-dire qu'on fait des séances vraiment spécifiques sur piste, on prend le temps, je sais pas, une demi-heure, deux fois par semaine pour travailler la technique de pied avec des différents exercices? Ou est-ce que c'est totalement inclus dans le travail quotidien d'un marathonien ou d'un semi-marathonien?
Bah écoute, le j'ai envie de dire que c'est bien évidemment inclus dans le quotidien. Moi, je suis assez favorable de l'homéopathie. Tu vois, je trouve que c'est pas très profitable de dire on va faire un bloc que du pied, puis pendant 2 mois ou 3 mois tu vas faire que courir. Ça en général ça marche pas, mais dans aucune épreuve. Donc il faut intégrer des choses, des routines qui te correspondent, qui conviennent, parce que quand on dit quand on décrit, si tu veux, il faut individualiser les choses. C'est-à-dire que t'as des gens, si tu veux, le pied c'est je sais plus combien, 150 muscles ou c'est monstrueux. Donc tout le monde a pas les mêmes forces et les mêmes faiblesses. T'en as qui vont avoir un gros problème sur avec les releveurs du pied, ils vont être très faibles devant sur le jambier antérieur. Il va falloir faire peut-être mettre dans la préparation physique des exercices pour renforcer le jambier antérieur, les releveurs des orteils, les releveurs du pied avec des petits élastiques, avec des petits trucs comme ça. Tu vois, c'est ça. Moi, je tiens à alerter les gens, faites attention, ne vous jetez pas sur la pliométrie comme ça du jour au lendemain, parce que vous avez entendu dans ce podcast qu'il faut faire du pied. La pliométrie, c'est un truc extrêmement sollicitant, exigeant, qu'on ne peut faire que quand on est prêt physiquement. Donc, moi, je suis favorable à... à une préparation musculaire d'abord, ouais, de tous les muscles qui contrôlent le pied.
Je vais vulgariser la pliométrie. Donc, c'est une séance d'entraînement intense de force et de saut. Justement, c'est pour, c'est basé sur des mouvements explosifs pour gagner de l'énergie avec un temps de contact au sol qui est réduit, hein, c'est ça le but ?
Ouais, en fait, oui, t'as raison, faut vulgariser, c'est des bondissements, c'est ce qu'on appelle des bondissements, c'est par exemple des sauts pieds joints au-dessus des petites haies ou des choses comme ça. Moi, sincèrement, je prescrirais pas ça pour des marathoniens.
Je
pense qu'il y a déjà moyen de bien renforcer ton pied en allant dans une petite salle de muscu avec une presse oblique où tu vas travailler sur une jambe, la jambe bien tendue, puis tu vas faire travailler ton pied, tu vas commencer avec des poids légers comme ça. J'aime beaucoup mettre les athlètes en chaussettes, tu sais, une petite barre de 10 kilos sur les épaules, et puis tu leur demandes d'attaquer talons, de prolonger la poussée du pied, de finir très très haut,
et de rester long.
Tu vois, c'est moins agressif. Ouais. Ça doit être le travail du pied, ça doit être quelque chose de si tu veux qui te redonne un corps apte à courir.
Ouais. Johan, comment tu fonctionnes toi sur ces séances de muscu ? Est-ce qu'il y a du travail du pied ? Parce que tu as beaucoup de renforts musculaires, notamment le haut du corps, mais comment tu travailles le bas et notamment les pieds alors ?
Alors, je vais les travailler de différentes façons. Il y a une façon dont on n'a pas parlé, que je fais pas mal, c'est aussi des lignes droites, de courir vite. C'est-à-dire que dans mes prépas marathon, deux fois par semaine, je fais 6 à 8 fois 100 mètres explosifs. Couru vite pour retrouver cette qualité de pied, cette foulée.
Sans super shoes.
Alors après, je ne prends pas les chronos, hein, mais je cherche à être relâché au niveau du haut du corps et surtout du bas du corps et de sentir mon pied se dérouler et cette attaque.
Tu te concentres sur ton pied.
Je me concentre sur mon pied, sur ma foulée et je sens que y a mon passif de coureur de 5000, tu vois, 5000, 3000 qui revient avec la sensation de vitesse. Et ça, je trouve que ça me permet de garder ce dynamisme et de garder un peu cette explosivité du pied dans ma prépa. Et après, sinon, c'est une à deux fois par semaine où je vais faire des petits exercices, mais c'est hyper simple. C'est des gammes, des montées de genoux, des talons-fesses, des cloches-pieds.
Tu fais encore ça, toi ?
Ouais, de la corde à sauter. Je fais pas, comme l'a dit Renaud, trop de plios, trop de trucs vraiment en force où tu fais des gros bondissements.
Ouais.
Mais par contre, des petits tac-tac, tu vois, des trucs juste pour dynamiser votre cheville, votre tendon d'Achille. C'est un peu comme ça que je le travaille.
Et toi, vu le nombre de kilomètres que tu t'envoies, c'est pas non plus, tu dégrades pas trop.
Non, l'idée, ouais, c'est ça. C'est que moi, vu le. Et puis à mon passif, j'ai 37 ans, 38 ans, donc je suis quand même plutôt jeune. Donc effectivement, je veux pas trop agresser mes muscles avec de la muscu ou de la vraie muscu ou de la vraie plio, parce que je sens que peut-être qu'à mon âge, j'aurais pas la capacité à encaisser. Donc du coup, c'est juste essayer de faire des petits exercices, des cloches-pieds sur 20 mètres, des montées de genoux hyper dynamiques, des talons-fesses, du travail d'escalier, les choses comme ça, pour essayer à ce que mon pied et ma cheville travaillent et mobiliser un peu mon tendon d'Achille, renforcer les mollets, les choses comme ça.
À la fin d'une séance, au début d'une séance,
en
échauffement ?
Non, je l'ai fait. Je peux faire des gammes avant mes séances, ça c'est naturel et c'est toujours normal. Je fais 10-15 minutes de gamme avant chaque séance, même avant chaque même mes séances un petit peu spé marathon. Je vais faire des montées de genoux, des talons-fesses, les choses comme ça, pour activer un peu le tout. Mais sinon, c'est plutôt les jours un peu off ou après un petit footing de régénération de 10 km, là derrière vous prenez votre... Ça dure pas très longtemps, hein. Vous prenez 5-10 minutes, vous faites un peu de corde à sauter, un peu de travail de gamme et puis voilà, ça doit pas durer. Moi je sais que je préfère le faire une à deux fois par semaine comme ça, 5-10 minutes, mais toutes les semaines, que comme l'a dit Renaud, une fois tous les deux mois. Ouais. Moi Renaud, j'ai l'impression que ça me suffit.
La corde à sauter, c'est utile pour le travail de pied alors ?
Oui, très très bien. De ce que Johan dit, et il a vraiment raison, le meilleur travail de pied, c'est des gammes de courses bien exécutées. Alors je précise bien exécutées, c'est-à-dire que si tu veux isoler le pied, il faut tendre le genou. C'est-à-dire que malheureusement, je vois trop dans les sas de départ des gens qui font des gammes mais mal exécutées. Donc, par exemple, tu sais, les déplacements jambes tendues ou même les talons-fesses ou des choses comme ça. Alors, il faut essayer de se concentrer pour pas fléchir le genou. Parce que quand tu tends bien le genou, eh bien là, il n'y a que le pied qui travaille. Tu ne te sers pas du quadriceps. Donc, c'est ça, en fait. La petite clé, c'est les gammes, c'est ton fil rouge, pour bien travailler ton pied, mais il faut bien les faire. Et puis la corde à sauter, c'est excellent, bien sûr que c'est excellent. C'est excellent, ça stimule tous les capteurs proprioceptifs.
Il y a le cardio puis, qui bosse.
Ouais. Il y a le cardio qui bosse, ouais, ouais, complètement.
Et donc là, on parle de gamme. Tu ferais comme Johan, toi, tu l'ajouterais comme ça à une séance. Tu peux faire ça après une séance de récupération, c'est-à-dire tu finis ton footing de régénération, tu arrives, tu peux te faire un peu de gamme sur 10 minutes. C'est comme ça, travailler un peu le pied, te concentrer là-dessus, Renaud.
Bah, tout dépend de le ouais. contenu de ce que ouais. tu as fait avant. Si tu veux, si tu t'es vraiment vraiment cramé, là, faut faire attention. Tu vois, c'est. Enfin, faut éviter quand même faire du travail de pied à l'arrivée d'un SMIC que t'aurais fait à fond, quoi.
ouais, c'est sûr. Est-ce que la cadence, ça se bosse? Est-ce que c'est intéressant de la bosser, Renaud? On en a souvent parlé, nous, dans RMC Running. Je sais que c'est une donnée que Yodu ne regarde même pas.
Je sais même pas cadence, c'est quoi la cadence.
Cadence de pas par minute, il en a rien à faire. Il court à la sensation. Est-ce que toi, tu préconises de le regarder, de le travailler, de se forcer à rajouter de la cadence pour travailler le pied? Comment tu vois ça, toi?
Non, mais là aussi, je pense que la panoplie, elle doit être complète. Tu sais, j'ai un grand ami que Johan connaît, qui s'appelle Bruno Gagère, et qui entraîne lui plus, tu vois, du 800 mètres. Et il a une bonne formule pour ça. Et Alain Ligné aussi, qui est plutôt entraîneur de 1500, 3000. Tous ces athlètes-là, tous leurs athlètes, ils font... de la technique de course, par exemple, tu vois, ils font de ce que font les sprinteurs avec des petits plots, avec des petits croisillons, des trucs comme ça. Ils en font tous, mais donc ils font de la fréquence, ils font de l'amplitude pour avoir la panoplie. Mais par contre, la technique de course que tu as en course, quand tu fais du long, elle est différente. Il ne s'agit pas de courir et de monter les genoux comme un sprinteur. mais par contre, c'est qui peut le plus, peut le moins. Donc en fait, l'idée, c'est de toujours avoir une bonne mécanique de course et donc d'avoir un apport dans ton entraînement où tu vas travailler une bonne technique de course, un peu comme font les sprinteurs courts. Mais ensuite, dans ton économie de course, tu vas courir évidemment avec un coureur de demi-fond, avec un pied qui fait une boucle un peu plus prononcée derrière, les genoux qui montent moins, un corps un peu plus incliné vers l'avant et voilà. Mais c'est bien d'avoir dans ton bagage de la cadence, de la fréquence et de l'amplitude. Tu vois, alors ouais, ouais. Évidemment, Johan, il approche de la fin de carrière, il va pas se mettre du jour au lendemain à mettre des plots ouais. avec 2,20 mètres d'écart et ouvrir et s'éclater l'ischio. Donc, sûr.
C'est sûr.
Mais,
parce que voilà. toi, on l'a dit, tu as été entraîneur de l'ADJI, notamment, ce titre de champion du monde en 2005. Là, on est sur une discipline totalement différente, le 110 mètres haies, du sprint avec des haies. Donc là, n'importe quel geste est analysé. Forcément, là, il ne faut vraiment pas se rater. Le nombre de pas est calculé et tout. Ça veut dire que l'entraînement de l'ADJI à l'époque, c'était quoi? C'était la technique, c'était l'élément le plus important, ou c'était au même niveau que la musculation? C'est la technique de course sur un hurdler, c'est primordial, Renaud, quand même.
Ah oui, oui, je te confirme. C'est
là, tu as dû en faire des ralentis, hein, des vidéos, des ralentis, des postures de pied,
c'est que ça.
Des trucs.
C'est que ça, on est au centimètre près sur la distance d'attaque avant la haie, on est au centimètre près sur la distance de réception après chaque haie. On est le 110 mètres haie, si tu veux, tout le monde pose le pied au même endroit. Tu ne peux pas jouer sur l'amplitude. Tu sais que la vitesse d'un coureur, que ce soit du marathon ou du sprint, c'est le produit de sa fréquence par son amplitude.
Ouais.
Sauf que sur les haies, t'es contraint par un espace qui fait 9,14 m, et donc quelque part tu peux pas jouer sur l'amplitude, parce que si tu fais des foulées plus grandes, tu te prends la haie dans le nez. Donc en fait, tu ne travailles que sur des hautes cadences, des hautes fréquences, et le jeu consiste à aller le plus vite possible sans s'approcher de l'obstacle. Donc effectivement, on est dans le règne de l'hyperfréquence et surtout d'une gestuelle la plus optimisée possible, parce que la clé de la réussite sur les haies, c'est la trajectoire du centre de gravité. Il faut que ça soit le plus plat possible. tu passes le moins de temps possible en l'air.
Vous qui êtes des spécialistes, et je trouve que c'est assez marquant, si vous avez la chance d'être dans une ville où il y a un grand marathon majeur là, qui se dispute, allez comme ça au bord de la route et regardez les élites passer. Moi, ce que j'adore, c'est le bruit du pied des coureurs élites. Et je trouve que le bruit du pied, Yodu, ça dit tout, parce que bah nous, ça nous arrivait de faire des footings avec toi aussi. T'as l'impression que le pied ne touche jamais le sol, en fait. C'est ouais. Une espèce de...
Et c'était encore plus vrai avant l'arrivée des carbones. Maintenant, avec les nouvelles chaussures, ça fait un bruit un peu monstre, même chez les coureurs kényans.
Ah, les Nike, c'est un enfer, le bruit.
Ouais, les espèces de potes dessous, ils font un bruit monstre. Ouais. Mais il y a quelques années, quand il n'y avait pas ces chaussures et qu'on était encore sur des chaussures assez minimalistes, t'entendais rien.
Ouais,
c'était
le pied se pose et redécolle
tout de suite. Ouais. Et justement, il vient pas frapper le sol comme après on peut le voir sur les coureurs à 3 heures et plus. C'est vrai que entre l'élite et les amateurs, tu vois vraiment la différence de pied, de temps de pose. Et après, c'est normal puisque c'est la vitesse. Mais c'est vrai que t'avais cette sensation. Aucun bruit, ça répondait tout de suite et ça allait très vite. Ouais.
Renaud, au bruit du pied, tu peux savoir s'il y a une bonne technique de course ?
En tout cas, c'est un très bon indicateur. Par exemple, sur le saut en longueur aussi, tu vois. Les gens qui tapent au sol, tout bruit que tu vas entendre, c'est une déperdition d'énergie, c'est une perte de vitesse. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir le pied d'un chat. Tu vois, moi je prends cet exemple. Voilà, le chat, tu ne l'entends pas au sol. Et il va très très vite. Donc, c'est la clé de la vitesse, c'est exercer la plus grande force possible au sol dans le temps le plus court possible. Et effectivement, il faut aussi que mécaniquement, il y ait limité les amortissements, les frottements, les blocages sur la prise d'appui.
Est-ce que c'est pas un travail qu'on peut mettre en place au quotidien, même dans les footings de récup et tout, de se forcer, je sais pas, d'enlever la musique ou le podcast RMC Running qu'on est en train d'écouter, Yodu, et d'écouter son pied.
Non,
mais t'inquiète pas, ils écoutent dans leur baignoire, tu le sais, avec Benoît qui fait partie de la prépa du marathon de Paris. Non, mais est-ce que là aussi, tu peux écouter ta sensation, mais écouter aussi le bruit de ton pied, ça peut être intéressant de se forcer un exercice supplémentaire, de se dire je fais le moins de bruit possible avec mes pas. Est-ce que là ça emmène à une bonne technique ou pas, Yodu?
Ouais, non, mais si, c'est ça, ouais, t'as raison. Mais tu m'aimes, quand on court avec de la musique ou quelque chose dans les oreilles, c'est vrai qu'on n'a pas tendance, on ne s'écoute pas, on n'écoute pas son souffle, on n'écoute pas sa sensation, on n'écoute pas sa cadence et on n'écoute pas son pied. Donc c'est vrai qu'enlever tout ça et revenir un peu aux fondamentaux de temps en temps, ça fait du bien, et de vraiment rester focus sur soi, sur sa foulée, sur sa respiration. Ça c'est une évidence, mais aussi sur sa foulée comme tu le dis, et de temps en temps essayer d'un point de vue gestuel de s'améliorer, ça peut être intéressant pendant une footing ou pendant une sortie longue, d'essayer de se grandir, d'essayer de pas se tasser, d'essayer de rester gainé, de rester solide, d'être équilibré avec les bras, et après d'un point de vue pied, d'essayer d'avoir ce déroulé, cette sensation de travail de pied. Après comme l'a dit Renaud au début, c'est vrai que là-dessus, c'est la nature aussi qui décide de la façon dont vous allez courir. Moi, je reviens du Kenya, je peux te dire, j'ai vu les gamins courir à côté de moi. Tu te dis, ces gars-là, ils ont rien que de naissance, ils ont un potentiel, parce que quand ils courent, ils sont sur la pointe des pieds, ils ont une foulée aérienne, c'est propre, c'est élancé, c'est tout ce que tu veux. Et quand tu vas dans les écoles, enfin si je vais dans l'école à côté de à Paris là, je vais aller voir les gosses là, ça va taper du pied, ça va courir en avant, les bras le long du corps, il y a rien qui va aller. C'est naturel, c'est soit t'as du pied à la naissance et t'as cette chance là, t'as ce don là, ou soit tu l'as pas et après faut bosser, mais c'est compliqué. Et là-dessus, on peut pas changer quelqu'un qui s'est mis à la course à 45 ans, on va pas lui changer sa foulée et lui demander de courir sur l'avant du pied.
C'est une bonne question avec Renaud, parce que Renaud, t'as encadré des sportifs de tout sport, de sports différents, même des sports co, on le disait. Est-ce qu'on peut changer la foulée de quelqu'un, ou est-ce que ça c'est propre à chacun et c'est impossible de modifier ça?
Tu peux, bien sûr. Tu peux, si tu veux, résoudre des lacunes. Tu peux résoudre des lacunes, ça c'est sûr. Par exemple, quelqu'un qui va courir assis. Il y en a beaucoup. Il y a des gens qui courent assis comme ça. Souvent, c'est qu'ils
Qu'est-ce que ça veut dire courir assis?
Ça veut dire que, si tu veux, sur la phase de soutien, c'est-à-dire quand le pied est sous le bassin, ils vont avoir une flexion prononcée du genou, et puis ils vont avoir les fesses basses, quoi.
Un peu la jambe à la perpendiculaire, quoi, c'est ça?
Quand le pied est à l'aplomb du bassin, ils ont le short qui frotte le sol.
Ah, d'accord.
Comme Geoffrey, notre producteur.
Non, oui, bien sûr. Ah bah si. Il y a une foulée dégueulasse, Geoffrey Charpie.
Il y a des choses à dire.
Non, mais ça, par exemple, tu vois, ça se résout facilement. C'est souvent des gens qui ont une raideur du psoas, des fléchisseurs de hanche. Donc, il y a des étirements à faire, il y a des exercices qui permettent de gagner, trouver de l'allongement. Tu vois, tout ça, on peut agir là-dessus, bien sûr qu'on peut agir.
Si on retourne dans le concret un peu, Renaud, est-ce que tu peux nous donner des exercices à effectuer pour travailler son pied, faire en sorte qu'on ait un pied plus fort, comme ça, un système de gamme? Quels exercices tu préconises alors?
Alors déjà, moi, je donnerai un exercice, par exemple, qui est tout simple, c'est que tu mets ton pied sur le bord d'une marche d'escalier, tu vois, tout simplement,
ouais.
Et tu laisses le talon descendre dans le vide, tu gardes la jambe bien tendue, et puis t'effectues des poussées, tu peux faire ça tous les matins, et tu vas doucement à la descente, tu vois l'idée, et
ouais,
tu montes jusqu'au bout du pied, et tu redescends.
Et tu montes plus vite que la descente, ouais.
Oui, tu peux pousser, tu peux pousser à la vitesse où tu veux, mais ce qui est important, c'est la phase excentrique, c'est la phase de descente, parce que c'est celle-là, c'est la double contrainte de l'étirement et de la contraction, et c'est celle-là qui va te renforcer et qui va agir pour la prévention des blessures déjà, et puis qui va te donner un peu plus de force, de résistance au contact du sol, à la prise d'appui. Donc ça c'est le meilleur exercice. Tu te mets sur une marche d'escalier et puis tu vas bien jusqu'à la flexion maximale de ta cheville, tu pousses et tu vas bien chercher l'extension, tu vois, jusqu'au bout des orteils, et puis tu descends doucement, tu fais 3 séries de 10 comme ça tous les matins. Là déjà t'as quelque chose.
Et c'est pas le
mollet
qui trinque musculairement sur un exercice comme celui-là, non?
Bah, c'est le mollet qui trinque, c'est le mollet qui travaille.
Oui, il travaille.
Ça le renforce, ouais.
Mais bon, si tu travailles pas, mon petit, t'as du mal à obtenir des choses dans le sport.
Oui, coach,
on en reparlera.
C'est vrai. Non, mais tu connais cet exercice, tu le
fais? Ah, moi, je l'ai bouffé pour mes problèmes de tendon d'Achille. Voilà. Je peux te dire que c'était dans mon quotidien d'entraînement avant les séances. Après les séances, c'était du renfo comme ça du mollet pour justement renforcer le tendon d'Achille et travailler en excentrique. Et parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais c'est vrai que le tendon d'Achille, alors c'est lui souvent qui est problématique chez pas mal de coureurs avec des tendinites parce qu'il est très sollicitant, mais c'est vrai que c'est lui qui va aussi vous donner cette capacité au pied à rebondir et à avoir un appui assez solide. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment un exercice de base pour prévention des blessures. Mmh. Et aussi renforcement du tendon.
Yodu, t'es mon entraîneur. Quand on n'est pas en prépa spécifique, souvent tu me mets des exercices comme ça d'escalier. Alors
oui,
c'est certainement pour du renfo musculaire naturel, mais ça renforce le pied aussi, le travail d'escalier?
Bah, tu peux, ouais, si tu fais des gammes dans les escaliers. Enfin, tu vas renforcer tout ce qui est autour à partir du moment où tu vas renforcer tes mollets, tes quadris, tes ischios, ton bassin, être un peu plus gainé, un peu plus d'abdos et des choses comme ça. Bah, quelque part, après, c'est tout ton corps qui est plus solide. Si le tronc est plus solide, le pied, quelque part, après aussi, c'est beaucoup plus simple pour lui de gagner en économie d'énergie et d'être un peu plus fort. Donc, effectivement, ouais, c'est un travail de condition physique de base qui fait de toi un coureur solide, un mec qui va pas se blesser. Et après, si tu travailles justement la qualité de pied, derrière t'es assez costaud, ouais.
Et puis on l'a compris, c'était un des conseils de Renaud, c'est lorsqu'on fait des gammes, bien les exécuter, parce que
là,
faire des gammes,
c'est
bien.
Il faut avoir un coach, il faut un regard. Alors ouais, si vous êtes tout seul, essayez de vous filmer, parce que c'est quand tu vois les sur le moment, tu le ressens pas,
ouais.
Mais par contre, si t'es tout seul, tu te filmes ou tu demandes à quelqu'un de te filmer, et là tu vas vraiment voir les
raideur,
ah ouais,
un geste,
là tu vas voir si t'es assis, si t'es debout, enfin ouais, la façon dont des fois t'as un bras qui monte pas, et c'est vraiment quand tu vois les choses que tu t'aperçois que en fait il y a des choses à corriger, ouais. Donc soit il y a un coach qui filmez-vous, débrouillez-vous, mais il y a moyen pour bien bosser, ouais.
C'est ça l'enseignement, Renaud, c'est que les gammes classiques, c'est utile, je pense aux montées de genoux, aux talons aux fesses, etc., mais il faut très bien les exécuter, ce que tu disais tout à l'heure.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment avoir un... Tu sais, c'est un sprinter que Yo a connu en équipe de France, Mbanjok Martial. Il était allé s'entraîner avec John Smith, c'était le légendaire coach américain. Et moi, j'étais entraîneur national du sprint à l'époque. Et je lui ai dit, alors, raconte, c'est quoi la méthode John Smith, qu'est-ce qui... Et Martial, il m'avait dit un truc, ça m'avait choqué à l'époque. Il m'a dit, on a 3 gammes de courses, mais on les fait pendant 1h30 jusqu'à la perfection.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a...
Ouais, c'est un peu long. Hein.
Ça fait long. Hein. Ah, ouais. En gros, mais je lui dis, mais ah ouais. Il me dit, ouais, il y a trois gammes.
Et c'est quoi les gammes alors? Tu te souviens, non?
Je crois qu'il y a eu un doc qui est sorti où il le fait faire à Alison Felix ou un truc comme ça. Et il y a déjà les déplacements jambes tendues. Alors, t'imagines, pendant une heure et demie.
Ça, c'est dur, hein. Très dur à faire quand on veut bien faire. Hein.
Ouais. Mais encore une fois, faut bien le faire. Mmh. Et donc, bien le faire, ça veut dire faire avancer le bassin. Parce qu'il y en a beaucoup qui montent les pieds comme ça, qui te jettent les pieds devant, mais le bassin doit avancer sur l'appui, sans que la jambe fléchisse. Mmh. Et ça, c'est pas simple. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps. Après, t'as une jambe qui reste tendue, puis l'autre jambe qui va faire un cycle de jambes, tu sais, mmh. Comme une montée de genoux. Ça, pareil, jusqu'à la perfection. Et puis après, t'as ce que nous, on appelle les montées de genoux. Et les mecs faisaient ça 1h30 tous les matins, sur l'herbe, pieds nus.
Quelle horreur.
Bah, quelle horreur. j'ai un autre exo qui pour moi est vraiment un top exo pour le pied, qui est facile à faire pour tout le monde. Mm-hmm. C'est en fait, tu te mets les mains dans le dos, tu tiens les mains dans le dos. Je sais pas en radio si je vais réussir à bien
expliquer. Non, mais tu sais ce qu'on va faire, on va expliquer les coulisses. Tu l'as envoyé en vidéo à Geoffrey Charpie, notre producteur, qui vient de me le transférer. On va le mettre sur nos réseaux, en fait, cet exercice.
Ah bah voilà.
Et je vais t'aider à le décrire, en fait, où tu es. Il y a une sorte, il y a une échelle, en fait, les échelles qui servent souvent pour faire de la coordination.
Ouais, une échelle de rythme.
Mais
tu peux le faire sans échelle de rythme. Tu mets des lattes ou des bouteilles d'eau, enfin, dans un truc à plat, quoi.
Tu sautes pieds joints, jambes tendues, il y a un seul pied qui travaille et t'as les mains dans le dos, en fait, c'est ça.
C'est ça. En fait, tu te déplaces que sur une jambe, t'as une jambe qui est fixée devant avec la pointe de pied relevée, ça c'est important, les mains dans le dos, t'es pas plié en deux, t'as bien le bassin vers l'avant, les épaules sont très hautes, et tu ne te propulses vers l'avant que avec ton pied. Il y a que le pied qui te fait avancer.
Là, ça bosse, hein.
Allez.
Ouais. Regarde, même vieux dude, il est impressionné.
Il le fait bien, le gars.
On fera la même ça, avec Johan. On va la mettre en ligne.
Ça, par contre, comme je disais tout à l'heure, vraiment, vraiment, homéopathie. Ça veut dire...
Voilà. Allez-y doucement, les gars. Ouais. Bien sûr.
C'est deux fois par semaine, trois séries sur chaque pied. Bon. C'est tout, pas plus. Parce que ça bosse vraiment bien.
Renaud, est-ce qu'on peut rappeler les deux, trois conseils principaux qu'on a donnés autour de cette thématique? Déjà, c'est lorsqu'on travaille, de le faire bien et d'avoir une bonne posture. C'est de faire ça à dose raisonnable, hein, c'est ce qu'on a dit.
Homéopathique.
Et puis, c'est de varier les chaussures, organiser une rotation dans les paires de chaussures et se forcer, comme dit souvent Yodu, à travailler son pied au quotidien, même sur du footing de récupération.
Voilà, non, c'est bien. J'ajouterais juste un truc, c'est d'autant tu renforces, d'autant tu étires. C'est-à-dire que très souvent, on ne s'étire pas assez les releveurs du pied, on ne s'étire pas assez le mollet, mais c'est la règle d'or de la force élastique. Il faut avec des petites cordes, faut trouver un moyen, mais il faut s'étirer les pieds constamment. On se met sur un petit tapis, on y va, on ramène les orteils, on tire avec une petite bande sous la plante de pied, et puis il faut allonger tout ça, il faut étirer tout ça. Mmh.
Tu t'étires les pieds, toi, Yodu ?
Non, mais les exercices de voûte plantaire aussi sont pas mal, sont importants pour sentir ses orteils, cette espèce de griffé.
Avec la balle, là, que tu peux aller...
Soit avec une balle ou avec... Ouais. Tu mets une serviette au sol et tu vas t'essayer de ramener de la serviette, de la griffer avec tes orteils pour essayer justement de ressentir... Bah, que ton cerveau il soit capable de normalement il doit être capable de lever ton gros orteil, tu vois, tu dois être capable de poser ton pied au sol, les cinq orteils. Et tu dois être capable de lever le gros, tu vois.
Okay.
Et ça, c'est une information que ton cerveau il doit être capable d'enregistrer et d'amener. Et pour ça, c'est vrai qu'il y a ces exercices aussi de développement un peu sensoriel, de voûte plantaire et tout, pour développer un peu toute cette capacité à ressentir ton pied et avoir justement être costaud aussi jusqu'au bout de l'orteil, tu vois, pour aller griffer comme il faut.
Ouais. Il est bon ce Yodu, hein, Renaud.
Ah, il est très bon, puis il connaît bien l'athlétisme.
Ouais, ça c'est sûr.
Je vais me mettre à coacher le sprint.
Eh ben ouais, tu peux, pourquoi pas.
T'as raison.
Non mais oh, allez, on passe tout de suite au bon plan d'eau, ça.
RMC,
le bon plan Dossard.
Et on vous propose un trail de nuit aujourd'hui. Ah. C'est l'AME Minuit Trail, un trail nocturne en forêt. C'est dans la forêt de Montargis. Ça va se passer le 23 mars prochain. Et on va en discuter avec l'organisateur, Jean-Baptiste Magnodex, qui est avec nous. Salut Jean-Baptiste.
Bonjour à tous les trois.
Bienvenue. Comment ça va Jean-Baptiste?
Bonjour.
Ah, très bien. Bonjour. Je suis heureux d'être avec tous les trois. Surtout avec un Loiretain.
Ah oui, c'est moi. Notre beau département. Merci Jean-Baptiste, on le met à l'honneur. Parle-nous de ton événement et de ta course. Alors déjà, il y a plusieurs formats disponibles, on attend d'y venir. Mais comment vous avez eu l'idée comme ça de lancer un trail nocturne en forêt de Montargis alors?
Alors, c'est au départ, c'est deux passionnés qui ont créé cette course parce qu'il n'y avait pas de trail de nuit dans le secteur de Montargis tout autour.
Ouais.
Donc c'est Eric Tolens et Manu Bedu qui ont créé ça. Au départ, c'était une petite distance. Il y avait un petit 20 km et un petit 10 km. Et moi, j'ai repris la suite en 2018 de tout ça. Donc, on a créé un 10 km ouvert à tout le monde. Là, cette année, un 17 et un 25. Donc, totalement de nuit en forêt de Montargis. Une magnifique forêt, si vous ne connaissez pas. Par contre, ne vous attendez pas à un gros dénivelé. Il n'y a pas de dénivelé.
C'est pas une spécificité régionale, ça c'est sûr.
Pas vraiment. Alors, on a certaines petites côtes qui sont sympathiques, mais c'est vraiment la convivialité de notre épreuve faite par des passionnés.
Ouais.
Parce qu'on est un petit groupe, DG3 Sport Amis, où on est des passionnés. Et voilà, il y a trois distances, 10 km, 17 et 25, avec deux nuits surtout.
Amis, Montargis, les gars, vous êtes sur une terre de foot. Hein. Là, il y a beaucoup de joueurs professionnels qui sont sortis dans le coin. Hein. Non, mais je vous le dis, vous me regardez comme ça, je vous le dis, il y a pas mal de joueurs de foot qui sont sortis, qui sont passés par Amis, gros club formateur chez les jeunes. Non, mais c'est vrai.
C'est les anciennes gloires, hein. C'est pas les nouvelles gloires, mais c'est vrai qu'il y a des Franck Gavin, Patrice Loco, tout ce qui sont passés par
Amis.
Bien sûr. Est-ce qu'on a les chances de croiser des loups en forêt de Montargis le 23 mars?
Tu ne vas pas croiser des loups, par contre tu vas croiser des sangliers, vous avez les sangliers, il y a beaucoup de sangliers en forêt de Montargis, mais vous inquiétez pas, ça se passe très très bien.
Mais de nuit, c'est quelle heure le départ?
Alors c'est de 19h, donc le 23 mars il fait déjà nuit, il fait encore nuit pardon, départ à 19h30 exactement pour le 17 et 25 km. Où les gens partent en même temps et ils font le choix de leur parcours autour du 7e kilomètre. Et le 10 km part à 20h30 dans une petite zone de vie où les deux grands parcours se croisent et c'est vraiment convivial.
Ça, c'est top, c'est pas arrêté. Donc, si tu pars et que tu te dis « je suis pas dans un bon jour », je fais plutôt le 17 plutôt que le 25 alors.
Exactement, c'est une spécificité de notre course. Et puis à l'arrivée, il y a un petit moment convivial où on sert une soupe maison.
Magnifique.
Un sandwich maison aussi et une de pâtisserie maison qui sont faites par notre coachette. Donc si vous aimez bien les soupes, des fois c'est des soupes improbables, tomates banane ou carottes.
Ah ouais, oh là.
Tomates banane.
Un truc improbable, mais les gens reviennent, la boisson est à volonté, à discrétion pour la petite bière d'après-course.
Ouais. Mais repas et bière à volonté. C'est pas bon.
Je préfère ça que la soupe tomate.
Ouais, tomate banane, j'avais jamais entendu, il faut tester. Pourquoi pas?
C'est à faire. De toute façon, Benoît, on t'attend. Hein,
Oui, bien sûr. Oui. Moi, je viens pas sans Johan. Donc, si je viens, c'est qu'on sera là tous les deux.
Et bah, Johan, tu viens avec nous aussi.
Voilà, ça sera bon. On fera le 17 ou le 25, nous, Yodu?
Ouais, on décidera. On décidera.
On verra. Ok. Parle-nous de densité. T'attends combien de coureurs, Jean-Baptiste, sur cette soirée-là?
Nous, par rapport à tout ça, on limite à 350 participants. Parce qu'on a des transports, on a un lieu de vie qui est à Amilly, et nos départs sont un peu plus loin, donc il y a des transports. Et comme tout, on fait tout maison, on limite à 350 personnes.
Ouais, c'est vraiment une course sympa, comme ça, à taille humaine, donc vous pouvez vous régaler si vous êtes dans la région, allez vous lancer dessus. Le terrain de jeu, tu l'as dit, pas trop de dénivelé, est-ce que c'est du parcours technique ou non, ça va, c'est accessible à tous?
Suivant les contraintes des autorisations de l'ONF, parce qu'on est quand même dans une forêt domaniale, on a pas mal de singles quand même, on essaye de ne pas faire des grandes allées calcaires, comme on appelle ça, et c'est vraiment technique, et tout, non, c'est super sympa.
Eh ben, on va travailler le pied grâce à toi. Merci Jean-Baptiste.
J'ai entendu les débats d'avant, donc vous pouvez...
Pourquoi pas. On dit l'AME, AME Minuit Trail, voilà, c'est à Montargis, le trail nocturne en forêt le 23 mars. Jean-Baptiste qui nous met à disposition 3 dossards, donc 3 dossards à gagner si vous êtes intéressé. Il faut postuler 3 soupes, tomates, bananes, pam. mais franchement, ça mérite de goûter, non?
Oui, mais... moi j'ai mangé une pizza petit pois, alors il n'y a plus rien qui me choque. Hein.
Il rentre du Kenya, il a mangé une pizza petit pois, mais c'est vrai. Bon, pourquoi pas. En tout cas, si vous voulez postuler, si vous êtes intéressé, vous allez sur nos réseaux sociaux, Strava et Instagram. Vous laissez comme ça, vous candidatez. Et le test d'écoute, il faut répondre à cette question. On est avec Renaud Longuèvre, le ponte justement du pied, celui qui donnait les meilleurs conseils, membre de la Dream Team RMC. Question toute simple, vous nous dites... quel est son rôle au sein de la Fédération israélienne d'athlétisme? Voilà, vous répondez à cette question. Et comme ça, vous pouvez postuler pour remporter les 3 dossards. Jean-Baptiste, merci et bon courage pour l'organisation. Hein.
Merci à tous les 3 et à très bientôt.
À bientôt.
Merci.
Et on remercie également Renaud Longuèvre qui était avec nous cette semaine. Merci Renaud.
Bah, c'était un plaisir.
Tu reviens quand tu veux, Renaud. Hein. De toute façon, t'es chez toi.
C'était un plaisir. On est en famille. La grande famille de l'athlétisme et réunie dans ce podcast.
Exactement.
J'ai passé un très bon moment avec vous.
Et bah, nous aussi, merci. Tu reviens quand tu veux. Et ça a été un plaisir de partager ce moment avec toi. Merci, Maître Yodu.
Avec plaisir.
Je suis un peu triste parce que ça y est, tu vas nous quitter. Direction le Portugal. Ça y est.
Ouais.
On repart en stage. L'affûtage pour le marathon de Séville qui arrive très vite le 18 février.
Exactement, ouais, direction de Portugal, un peu de soleil, tu vois, je suis juste une semaine en France pour revoir un peu la grisaille et puis je repars.
Et voilà. Alors Renaud a choisi une musique, la musique qu'il écoute quand il court. Renaud, c'est quoi? C'est The Strokes, c'est ça? On dit ça comme
exact.
Ça ok.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'on a mis alors?
New Yorkais.
Reptilia, voilà.
Ouais.
Pas mal ça, Renaud.
Ouais, c'est nickel.
Ça booste.
Voilà.
Nickel. Bon, comme ça, un footing breton. Pam.
Travail de pied là-dessus, crack.
Sous la pluie. Voilà. Le halage à Rennes.
Avec ça dans les oreilles, t'es chaud patate.
Et après la galette à l'arrivée.
Et voilà. Ou la soupe tomate banane.
Voilà.
Comme tu veux. Bon, merci Renaud, merci Yodu. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Toujours ce conseil pour terminer. Quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut à tous.